le magazine des Nations Unies.
Madame Fatou, Bensouda était en mission de travail cette semaine en République démocratique du Congo. La procureure de la CPI a rencontré les autorités congolaises, dont le chef de l'État Joseph Kabila. Elle a déclaré que son bureau était déterminé de poursuivre son travail en RDC et d'y combattre l'impunité. Dans cette édition, les péripéties du séjour de la procureure, qui également est notre invité. Dans cette édition également, la résolution 2409, le magazine des Nations Unies revient encore pour en décortiquer, cette fois-ci, le volet politique et électoral. Journée mondiale de la liberté de la presse, un 18 radio communautaire de Boutembo, doté de nouveaux équipements en énergie électrique, un don de la MONUSCO à travers son bureau local de l'information publique, dans le cadre des projets à impact rapide.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. La procureure de la Cour pénale internationale, CPI, a effectué une visite de 48 heures la semaine dernière en RDC. Honoré Missengakalala revient sur les grands moments de cette visite.
Pendant son séjour, la procureure générale de la CPI a rencontré d'une part les autorités politiques et judiciaires congolaises et d'autre part les acteurs politiques ainsi que de la société civile. Côté officiel, Fatou Bensouda a notamment eu tour à tour des entretiens avec le président Joseph Kabila, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et le procureur général de la République. À la suite de ses contacts avec la partie gouvernementale, la procureure de la CPI a lancé un avertissement ferme et clair. Si les autorités congolaises ne prennent pas leurs responsabilités, la CPI sera prête à se saisir des dossiers de violation des droits de l'homme dans ce pays. Le lendemain, Fatou Bensouda s'est ensuite entretenu jeudi matin avec le président de la commission justice et paix de la CENCO, Mgr Nsielele, évêque de Kisantu. À la sortie de la séance de travail, la procureure s'est adressée à la presse.
Je crois que c'est très important de rencontrer toutes les parties impliquées. Et ici, la CENCO, c'est une voix qui est écoutée et une voix de dignité qui est écoutée. Je crois que c'était important de les rencontrer. J'ai expliqué l'objet de ma mission. Ma mission, c'est d'abord de recueillir les informations et aussi de m'enquérir sur l'évolution de procédure nationale. J'ai expliqué à Monseigneur l'objet de ma mission. J'ai également écouté Monseigneur. Il a eu l'opportunité d'évoquer ses préoccupations sur, malheureusement, les incidents malheureux qui se passent dans différents endroits du pays. Comme je l'ai dit, je suis venu m'enquérir sur l'évolution des procédures au niveau national. Puisque c'est la responsabilité primaire des autorités de faire quelque chose sur ce qui est en train de se passer, et c'est seulement après que nous autres pouvons intervenir.
Immédiatement après le centre interdiocésain, l'hôte de la RDC s'est rendu au bureau de la CPI Kinshasa, où elle a eu une longue séance de travail avec les acteurs politiques de l'opposition, avant de livrer les conclusions de sa visite dans une déclaration faite à la presse.
Je viens de conclure ma visite en République démocratique du Congo. J'ai eu des entretiens importants avec le président de la République, son Excellence, Monsieur Joseph Kabila, et les autorités politiques et judiciaires congolaises. Nous avons échangé sur la situation en République démocratique du Congo, en particulier sur les violences commises dans le pays, l'état d'avancement des procédures judiciaires nationales, la coopération et les activités de mon bureau. Je me suis également entretenu avec les représentants de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, de partis politiques, de la société civile et d'autres partenaires. Et nous avons abordé des questions liées à la situation en République démocratique du Congo et les activités de mon bureau.
Et plus loin, dans cette même déclaration, elle lance ce message.
Avec une extrême vigilance, nous allons continuer à suivre de près la situation sur le terrain et à interagir avec tous les acteurs pertinents, y compris les populations civiles, les autorités congolaises, toutes les parties prenantes à la société civile. Nous sommes plus que jamais déterminés à soutenir et à renforcer les efforts et les capacités pour prévenir la violence criminelle et n'hésiterons pas à poursuivre les responsables d'atrocités commises en République démocratique du Congo dans le cadre de la complémentarité et de la coopération prévue par le statut de Rome.
Fatou Bensouda a pris ses fonctions de procureur général de la CPI le 15 juin 2012 après avoir été l'adjointe de son prédécesseur à ce poste, Luis Moreno Ocampo.
La résolution 2409, votée à l'unanimité sur le nouveau mandat de la MONUSCO, contient plusieurs volets, dont celui de la politique et du processus électoral. Le magazine tente de décortiquer ce volet dans ce condensé que nous présente Honoré Missenga Kalala.
Le socle du volet politique de la résolution 2409 repose sur l'accord du 31 décembre 2016 dont le Conseil de sécurité exige de la part de ses signataires son application intégrale et de bonne foi. Et la résolution cite entre autres signataires notamment le président de la République, la majorité présidentielle et l'opposition. L'application de l'accord de la Saint-Sylvestre implique aussi, lit-on dans la même résolution, les mesures de décrispation parmi lesquelles la libération des prisonniers politiques, la fin des poursuites judiciaires injustifiées telles que mentionnées dans le dit accord, ainsi que la fin du dédoublement des partis politiques. Dans le même ordre d'idées, le Conseil de sécurité demande l'instauration d'une procédure crédible d'inscription des candidats ainsi que l'autorisation de tous les principaux partis politiques à nommer leurs propres représentants dans les structures chargées de la supervision du processus électoral. Par ailleurs, les 15 du Conseil de sécurité demandent aux organisations internationales de collaborer étroitement entre elles en vue d'assurer l'application de l'accord du 31 décembre 2016. Il s'agit de l'ONU, de l'Union africaine, de la CIRGL, de la SADC ainsi que d'autres acteurs régionaux.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
En décryptage, le BAC-UN revient sur l'entretien sur le stress avec Sylvie Wiranda-Kavira. Sylvie Wiranda est conseillère nationale du personnel en gestion du stress dans le système des Nations Unies en RDC. Elle répond ici aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Sylvie Wiranda-Kavira, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
C'est quoi le stress?
Le stress, il va être défini de différentes façons, mais la plus simple définition qu'on puisse donner au mot stress, c'est que c'est une réponse non spécifique du corps face à des menaces qui peuvent être internes ou extérieures à l'individu et qui vont demander à cet individu de développer des mécanismes de gestion afin de surmonter le problème.
Oui, ça c'est une définition un peu scientifique, mais alors quels sont les signes?
Les signes vont être énormes, mais on va les grouper à quatre. Ils vont se manifester sur le plan physique, sur le plan cognitif, sur le plan comportemental et sur le plan émotionnel. Sur le plan physique, il y aura des changements dans le fonctionnement physique du corps. L'individu peut être en transpiration abondante, peut vivre des vertiges qui ne s'expliquent pas, des palpitations du cœur, de la pression artérielle élevée, de la respiration haletante et beaucoup d'autres signes physiques qui vont se présenter mais de façon vraiment inhabituelle et qui devraient normalement nous mettre sur un alerte.
Quels sont les facteurs ou alors les causes du stress finalement?
Alors le stress, ça pourra peut-être vous étonner, il va venir de plusieurs facteurs qui vont favoriser évidemment l'installation du stress. Les facteurs peuvent être personnels, ça veut dire liés à la propre personne qui subit le stress. Les facteurs peuvent être liés à son travail pour les travailleurs. Les facteurs vont être liés à la famille. Et encore que nous sommes en Afrique où la famille, c'est tout ce que nous avons de plus cher. Et donc, leurs demandes, leurs besoins deviennent nos demandes et nos besoins. Les désirs et le besoin de satisfaire à tout prix le besoin de membres de famille va nous mettre sur une pression. Et cette pression, tant qu'on n'arrive pas à la baisser, on peut vivre un stress permanent. Alors, le quatrième angle, c'est que le stress peut venir des facteurs environnementaux. Nous vivons dans un environnement tel que on vit de l'insécurité, on vit des coupures de courant, des coupures de l'eau, de l'insalubrité, de bruit nocturne. Et donc, un environnement malsain, il est suffisant à lui seul de nous mettre sous stress.
Le stress a certainement des conséquences.
Beaucoup de conséquences. et sur plusieurs plans. Généralement sur le plan physique et sur le plan physiologique, sur le plan psychologique aussi. Le stress va nous empêcher de vivre normalement notre vie de chaque jour. Le stress va favoriser plusieurs maladies, et ces maladies, on va les appeler des maladies psychosomatiques. Et donc, l'individu sous stress va être victime de maladies qui ne seraient pas normalement maladies si la personne n'était pas sous stress. Et donc, il y aura dysfonctionnement complet de l'organisme. Sur le plan physiologique, il y aura des maladies dues au stress ou favorisées par le stress. C'est par exemple des cancers qui vont être entretenus par le stress. C'est des gastrites avec ulcères qui vont être entretenus par le stress. De l'hypertension qui va être favorisée par le stress. Et des accidents cardiovasculaires, parce que le plus grand des méfaits du stress, c'est l'affaiblissement du système immunitaire. Et donc, toutes les maladies sont les bienvenues dans le corps de quelqu'un qui est sous stress chronique.
Mais le stress, ça peut se gérer quand même.
Le stress, il peut se gérer. Il peut se gérer sur généralement deux plans. Sur le plan personnel, ça veut dire je me décide de ne pas vivre sous stress. Et ça, c'est à travers des exercices de sport, c'est à travers une bonne hygiène de vie, c'est à travers une bonne hygiène alimentaire, c'est à travers une auto-formation, c'est à travers un regard positif que je porte sur les événements. Je refuse d'être fataliste, je refuse d'être négatif. Et sur le deuxième plan, ça va nécessiter l'aide d'une personne, d'une autre personne. Et cette personne peut être un ami, un collègue, un partenaire, un époux, une épouse, ou encore un professionnel de la santé mentale. Et ici, quand je parle de professionnel de la santé mentale, je cite les psychologues cliniciens et les psychiatres. Et donc, lorsque on est en situation de stress et qu'on a besoin de s'en sortir, ce n'est pas bon d'hésiter, de chercher de l'aide. Chercher de l'aide, c'est déjà une preuve qu'on est fort. On est suffisamment fort pour reconnaître ses limites et pour reconnaître le besoin qu'on a de gérer le problème qu'on est en train de vivre.
Est-ce que le recours à des stimulants comme l'alcool, la drogue, la cigarette peut constituer une stratégie de gérer aussi le stress?
Déjà, parlons de la santé et de façon globale. Tous les spécialistes de santé, ils vont vous interdire tous ces stimulants. Ok? Et en gestion de stress, on ne recourt pas aux stimulants pour une simple raison. Les stimulants vont vous donner la sensation du bien-être. Mais c'est juste une sensation, c'est pas le bien-être. Et donc, le recours aux stimulants est fortement prohibé, le recours à l'acte agressif aussi prohibé, parce que dans ces cas, vous serez en train d'éviter le stress et non de gérer le stress. Et lorsque vous évitez le stress, la nature, elle est tellement faite qu'elle va vous garder une bonne partie de ce stress quelque part, et ça va continuer à vous détruire petit à petit, et c'est une arme réelle et destructrice.
Alors, quel est le rôle d'un conseiller national en gestion de stress au sein du système des Nations Unies?
Merci beaucoup pour la question. Elle va faire le résumé de tous ces conseils dits. Le conseiller du personnel en gestion de stress pour les Nations Unies, c'est d'abord un spécialiste de santé mentale et qui a pour rôle essentiellement le bien-être du personnel. Et donc, la personne va pas s'occuper du delivery, ça veut dire des résultats que chaque individu va faire individuellement, mais la personne va s'occuper du bien-être de chaque individu personnel du système des Nations Unies, afin que les résultats attendus par les Nations Unies soient positifs et que chaque individu, chaque personnel des Nations Unies soit efficace dans ce qu'il fait. Et donc, le personnel des Nations Unies aura pour rôle de s'assurer que le problème individuel, le problème professionnel n'empêche pas l'atteinte des résultats attendus par tout un système. Nous sommes dans un système avec une très très large diversité, des nationalités différentes, des races différentes, de sexes différents, de
cultures
différentes, des traditions différentes, des coutumes. Ça veut dire on est au carrefour des différentes personnalités, et le conseiller du personnel va essayer de concilier toutes ces différences en vue d'atteindre les résultats escomptés par les systèmes. Et ça, c'est mon rôle.
Sylvie Viranda Kavira, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
plus bref, 1,6 million de personnes, dont la majorité sont des femmes et des enfants, ont bénéficié d'une aide directe en 2017 dans le cadre du Fonds humanitaire en République démocratique du Congo, selon un communiqué rendu public vendredi 5 mai par le bureau au Tchad de Kinshasa. 35,6 millions de dollars de ce fonds ont été mobilisés pour financer 43 projets humanitaires d'urgence à travers 36 partenaires d'exécution, dont de nombreuses ONG congolaises. Aux précisions, 17 ONG nationales ont obtenu 38% de ces financements et les ONG internationales 46%. Autre nouvelle, c'est le voyage de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC à Kindu, dans la province du Maniema. C'était jeudi dernier que Leila Zerougui a effectué ce voyage pour la première fois dans cette partie du pays depuis sa nomination à la tête de la MONUSCO. Pendant son séjour, la chef de la mission onusienne s'est entretenue avec les autorités provinciales et a promis de travailler main dans la main avec le gouvernement pour décanter certaines situations qui préoccupent la population de cette province.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Comme signalé dans le sommaire, notre invité aujourd'hui, c'est Madame Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, était en visite de travail en RDC. Avant de quitter le pays, elle a accordé une interview à Radio Kapi dans cet entretien avec Honoré Missenga Kalala.
Madame la procureure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fait mission, vous avez rencontré le président, le procureur général de la République, l'auditeur général et bien d'autres autorités. Quel était finalement l'objet de votre mission en RDC?
Merci pour la question. Je suis venu en RDC pour m'entretenir avec le président de la République et les autorités politiques du pays sur la situation en République démocratique du Congo, en particulier sur les violences commises dans le pays, l'état d'avancement des procédures judiciaires nationales, la coopération et les activités de mon bureau. J'ai également rencontré les représentants de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, de partis politiques, de la société civile et d'autres partenaires. Et nous avons abordé des questions liées à la situation en République démocratique du Congo et les activités de mon bureau. Cette visite est la suite de mes déclarations antérieures dans lesquelles j'ai exprimé mes inquiétudes quant à la situation critique et les épisodes de violence rapportés, en particulier à Kinshasa, Beni et dans les provinces des Kasaï et d'autres parties du territoire. J'avais alors lancé les appels aux autorités congolaises pour que des enquêtes soient menées. Je suis donc venu pour savoir l'état de ces enquêtes. La lutte contre l'impunité et la nécessaire prévention de crimes graves relevant du statut de Rome de la Cour pénale internationale sont des exigences pour la stabilité sociale. Il est essentiel que des procédures nationales effectives soient menées contre les responsables de tels crimes qui ont troublé cette stabilité. Les appels des nombreuses victimes pour que justice leur soit rendue doivent être entendus. J'encourage les autorités à intensifier leurs enquêtes et poursuites de sorte que tous les responsables de crimes atroces allégués de tous bords répondent de leurs actes devant la justice. La lutte contre l'impunité, c'est aussi la prévention. Ceci est une dimension essentielle de la justice. C'est pourquoi j'ai souhaité rencontrer tous les acteurs et toutes les parties concernées à continuer à œuvrer pour que, face à des moments difficiles où il y a des risques importants de commission de crimes graves, des mesures adéquates soient mises en place pour éviter à tout prix que de tels crimes soient commis.
Madame, par rapport aux appels des victimes, dans une lettre ouverte adressée au président Kabila, les coordinations de la société civile de Beni Boutembo lui demandent de saisir la CPI pour enquêter sur les tueries dans cette partie de la RDC. Est-ce que la CPI est-elle prête à mener une enquête pour suivre les présumés auteurs dans cette partie du Congo?
Mon bureau a ouvert une enquête sur la situation en RDC en 2004 et continue de surveiller de près la situation sur l'ensemble du territoire congolais. Il n'hésitera pas à agir si des actes constitutifs de crimes relevants de la compétence de la CPI sont commis et à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour poursuivre en justice
les personnes responsables en conformité avec le principe de complémentarité. J'ai demandé aux autorités nationales les informations sur les procédures nationales sur les incidents graves allégués commis sur le territoire, y compris à Beni, Kasaï et Kinshasa. Et j'enverrai une mission de travail, de suivi sur cette question.
Dernière question, madame. Quelles sont d'autres affaires qui peuvent intéresser la CPI en RDC?
En tant que procureur de la Cour pénale internationale, ma mission consiste à mener des enquêtes et des poursuites en toute indépendance et en toute impartialité à l'encontre des personnes portant la plus lourde part de responsabilité dans les crimes les plus graves qui soient le crime du génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, et qui relèvent de la compétence de la Cour et lorsqu'aucune autre institution ne rend justice aux victimes, qu'elles soient en mesure de le faire ou non. C'est au gouvernement de la RDC qu'il incombe en premier lieu d'engager des poursuites pour les crimes commis dans le pays et à ce titre, les efforts déployés par l'État congolais à cet égard continueront d'être suivis de près. Par exemple, mon bureau suit très attentivement l'évolution de la situation dans la province de Kasaï, notamment toute initiative à l'échelle nationale en vue d'identifier et de poursuivre les responsables des crimes qui auraient été commis dans cette province. En ce qui concerne le Kivu, un mandat d'arrêt délivré par la Cour à l'encontre de Sylvestre Mudachimura, commandant suprême des forces démocratiques pour la libération du Rwanda dans les provinces du Kivu, est encore en suspens. Ce mandat d'arrêt, à l'instar de tout autre, doit être exécuté. Nous poursuivrons nos efforts et recueillons toutes les informations disponibles susceptibles de faciliter son arrestation et sa remise à la Cour. Notre travail en RDC se poursuit. Et comme je l'ai indiqué, j'ai demandé aux autorités congolaises les informations sur l'état des procédures nationales. J'attends les informations pour décider de la prochaine étape.
Madame la procureure, merci beaucoup.
Merci à vous.
Prenons à présent à Butembo, au Nord Kivu, où 18 radios communautaires ont bénéficié d'une assistance de la MONUSCO en équipement panneaux solaires et batteries. Ces équipements ont été réceptionnés jeudi dernier à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Robert Kaoumoula, vice-président du collectif des médias de Butembo, a salué cette assistance de la mission onusienne au micro de Papy Martial Moukeba.
Nous sommes en train de célébrer en ville de Butembo, comme dans le monde entier, la Journée mondiale de la liberté de la presse. Nous célébrons cette journée avec un cachet très spécial. La MONUSCO nous a doté d'un appui électrique en énergie solaire sur 18 radios de la ville de Butembo qui en ont bénéficié. C'est une réponse réelle à un problème sérieux parce que la ville de Butembo, elle n'avait jamais eu d'électricité et donc les radios évoluaient avec des groupes électrogènes dont la gestion cache les radios. Et donc, le panneau solaire vient comme un appui, ce qui épargne entre 6 et 8 litres de carburant. Et donc, c'est de l'argent qui est épargné. C'est donc un appui très considérable que la MONUSCO nous a doté aujourd'hui. C'est donc un projet pour lequel nous remercions très sincèrement la MONUSCO.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Revenons sur la question relative à la tenue des élections en RDC. Une question a été posée à Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO.
Je suis journaliste indépendant et collabore avec Abari Kwetu. Je voudrais, Madame Florence, que vous puissiez nous éclaircir, chiffrer ou évaluer l'appui de la MONUSCO au processus électoral depuis la publication du calendrier électoral et si vous croyez en la tenue des élections cette année.
Oui, nous croyons en la tenue des élections cette année. Le Conseil de sécurité y croit. Il y a un accord politique qui a été signé par tous les partis politiques au Congo. Il y a un calendrier électoral, vous y avez fait allusion. Il y a une date, celle du 23 décembre. Et nous avons un mandat qui est celui d'accompagner la mise en œuvre de cet accord et du processus électoral. La représentante spéciale du secrétaire général a demandé à toutes les équipes de se mobiliser afin de pouvoir permettre la tenue de ces élections, que tout ce que la MONUSCO pourra faire afin que ces élections puissent avoir lieu. De façon concrète, on parle d'un côté de bons offices, des actions menées par la représentante spéciale pour établir la confiance entre les différentes parties prenantes, et d'autre part, une assistance technique. Nous avons donc des équipes qui travaillent avec la CENI, qui apportent des conseils, et le soutien logistique. Dans le calendrier qui avait été présenté par la CENI le 5 novembre, il était indiqué que la MONUSCO devait présenter à son tour un plan de soutien logistique au processus électoral avec une date limite qui était le 30 novembre. Ça a été fait. Le 30 novembre, nous avons remis notre plan de soutien logistique et depuis lors, nous nous préparons dans la perspective de ce soutien à la CENI. Le soutien qui est prévu serait un soutien qui serait similaire à celui que nous avons apporté à la CENI lors de la révision du fichier électoral, c'est-à-dire un soutien pour le déploiement du matériel électoral, à la fois de Kinshasa vers les grandes villes du pays, ensuite des grandes villes du pays vers les antennes les plus difficiles d'accès.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Wamenya Mugala Gabriel. Par intimité, quelques collègues m'appellent Yagabi ou Papa Gabi. Et par respect, les autres m'appellent Papa Wamenya. Suis marié et père d'une famille nombreuse. Après mes humanités littéraires à Chabunda, dans la province du Sud Kivu, j'ai été enseignant de français dans une des écoles de Kindu, notamment l'Institut Djoudi. Quelques années plus tard, j'abandonne l'enseignement et les tâtonnements pour fixer et orienter mon destin commence. Au fait, j'avais deux rêves. Je voulais soit devenir journaliste, soit un officier militaire. Ce sont là les deux ambitions qui hantaient mon esprit dès le bas âge. Déjà en cinquième primaire, j'imitais un journaliste de la voix d'Isaïre et de la station de Bukavu qui s'appelait les Kabu Os Atocho, et mes amis d'enfance m'ont surnommé comme ça. Je voulais par la suite devenir un officier militaire. C'est pourquoi, par deux reprises, j'ai présenté les concours de l'école de formation des officiers EFO, mais mon père Wamenya avocat, paix à son âme, à qui j'ai présenté mes résultats de satisfaction au concours, ne l'entendait pas de bonne oreille. Et chaque fois que je voulais échapper à sa vigilance pour rejoindre Kananga, il me suivait et proférait des paroles maléfiques à mon endroit. Les années s'écoulent donc avec le statut d'un diplômé d'État. Dieu merci, l'ISP s'implante à Kindu avec le professeur ordinaire Kimputu, paix à son âme aussi. Pas de choix, et pour relever les défis, je m'inscris dans cette institution universitaire où je sors diplômé en pédagogie appliquée, option français et langue africaine. Quand on parcourt professionnel, engagé en 2003 à Radio Kapi à l'issue d'un concours organisé à Kindu par Philippe Daïnden et Jean-Jacques Simon, je suis journaliste et reporter producteur. Après la conférence de rédaction où les sujets du jour sont discutés avec des orientations différentes, les calvaires et les stress commencent. Avant de descendre sur le terrain, ça dépend où je prends contact avec mes interlocuteurs, où je descends carrément sur le terrain à la recherche des informations. Le stress augmente lorsque je dois réaliser un sujet à diffuser sur la chaîne nationale pendant l'édition des midi, surtout lorsque mon interlocuteur me mène en bateau. Les appels intempestifs aussi de la rédaction centrale pour demander soit le chapeau, soit l'élément en entièreté augmente le stress. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous dépassons pour donner le meilleur de nous-mêmes au profit des millions de nos auditeurs. En plus des reportages que je réalise, je traite surtout les sujets sensibles qui touchent à la corruption, les détournements des deniers publics, les viols, les exactions et extorsions commises par les forces et services de sécurité, et cela m'attire la foudre de quelques personnalités politiques en province tout comme au niveau national. Je présente les journaux en Kiswahili. À l'absence du chef d'antenne ou du secrétaire de rédaction, je prends les manettes de la station et de la rédaction. Je reste aussi le réalisateur attitré de la station des Comas. Avant de venir à Radio Kapi, j'ai travaillé comme journaliste à la RTNC après avoir satisfait à un concours organisé par la direction générale de l'OZRT à Kindu en 1995. C'était même le début de la concrétisation de mes rêves qui étaient devenus une réalité. Il n'y avait pas de salaire, il n'y avait pas, on ne savait rien du journalisme, on ne savait rien du métier. C'était la porte d'entrée avant d'arriver à Radio Kapi. Pendant mes moments libres, je prends le temps de beaucoup lire, surtout que je n'avais pas fait formellement le journalisme. L'honnêteté scientifique oblige, et comme la plupart des collègues avec qui nous travaillons à Radio Kapi depuis 2003. Je suis les gars et mémé préféré, c'est comme la pâte de banane qu'on appelle l'ituma au poisson. Et chaque samedi, je marche soit avec mes enfants, soit seul. J'adore le football en sport, j'adore les cantiques religieux ainsi que les anciens succès. Qu'est-ce que je ferai après la MONUSCO? Là, je ne saurais pas prédire l'avenir après la MONUSCO. Seul Dieu qui est le maître des temps et des circonstances pourvoira à mes projets que je ne saurais pas étaler ici. Voilà.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Quel rendez-vous à retenir pour la semaine qui commence ce lundi 7 mai, c'est la journée mondiale des orphelins du sida. Le mardi 8 mai, double événement, journée internationale du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais également journée du souvenir et de la réconciliation en l'honneur des morts de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, c'est déjà la fin de ce magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Polydor Basunga, Honoré Missing-Kalala était au reportage et à la réalisation, Jean-Pierre Elali Coco pour la coordination, reportage également, Martin Sebujangwe l'a supervisé. À bientôt sur Radio Capi, ciao.